Nous saluons Sainte Claudine et ses acolytes.
Sainte Claire.
La fête de la Mère de Dieu. Pour la fête de la Mère de Dieu, c'est en même temps l'octave de Noël. Vous savez que Noël dure. Noël, c'est un ruisseau qui coule. Le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au septième jour. Des siècles de la nativité dans l'octave depuis des siècles et des siècles on célèbre la messe de Noël et on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'octave. Donc l'octave et on arrive ici à l'octave de Noël. Et le 1er janvier, c'est l'octave de Noël. Donc pendant des siècles, des millénaires, on peut dire, et même avant le mystère de l'incarnation, on fêtait déjà aussi la fête de la circoncision du Messie futur. Donc ça fait presque 3000 ans qu'on fête l'octave de la nativité du Messie. Et c'est le 1er janvier qu'on le fait. Donc en fait, la circoncision du Messie d'Israël. C'est après la Torah, les préceptes de Moïse, les préceptes que le Messie a donné à Moïse. Et il a donné des préceptes pour qu'il puisse les accomplir. Et c'est pour ça qu'on fêtait les événements du Messie avant qu'il n'arrive. Et la fête de la Nativité... Il y a des correspondances. C'est vrai que maintenant les calendriers se sont un peu bousculés entre les célébrations d'Israël et puis les célébrations chrétiennes. C'est vrai, mais par exemple la fête de Hanouka correspondait à la fête de Noël parce que ça correspondait à la nativité. La Hanouka, vous savez, c'est la menorah, c'est-à-dire la menorah, c'est-à-dire le Messie d'Israël pouvait être allumé désormais sans être rallumé pendant 8 jours. Vous connaissez l'histoire de la fête de Hanouka, ce qui est une grande fête en Israël. Le temple a été reconstruit, c'est un temple neuf, et on a allumé, mais il n'y avait pas d'huile. Alors du coup, on a allumé, mais il restait pratiquement pas d'huile. Donc la menorah s'est allumée, elle s'est pas éteinte. Et pendant 8 jours, pendant toute l'octave, La grande menorah, c'est une immense menorah qu'il y avait dans le temple et qui représente le futur Messie qui doit naître et illuminer le monde. La menorah s'est jamais éteinte. On s'est fait expliquer ça par une missionnaire chinoise l'autre jour. Et cette fête de la menorah, la Hanouka, représente précisément l'octave de la nativité du Messie. Le Messie présente sa première lumière, et bien miraculeusement cette lumière se répand et illumine le corps spirituel du temple de Jérusalem, c'est-à-dire le creux originel de la naissance à l'existence de tout être dans ce monde. Et c'est à partir de là que le Verbe de Dieu illumine tout homme à l'instant où il vient dans ce monde, 9 mois avant sa propre naissance. Et voilà, et l'huile de la menorah ne s'est jamais éteinte. Ce miracle est attribué au futur Messie qui doit naître. Parce que la lumière qu'il fait resplendir dans le temple de l'apparition à l'existence et de la vie de tout être humain doit resplendir comme ça dans les 7 jours de l'humanité. C'est-à-dire les 7 jours, c'est la plénitude des millénaires. La fête de Hanouka, c'est une belle fête. Et il fêtait le Messie, quand il fêtait ça, il fêtait le Christ, Jésus, donc quand Jésus est venu. Et Noël, c'était la même date. C'est la même date. Et donc, il est écrit dans les préceptes d'Israël que ceci, c'est que, au 8e jour, on donnera la circoncision à l'enfant et le lendemain, on lui donnera son nom. Et demain, on fête la fête du Saint-Nom de Jésus. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Yeshua. Voilà, c'est ça. Donc c'est quelque chose. Et aujourd'hui, c'est la circoncision. La circoncision, elle se fait. Il était à Bethléem, il n'était pas très loin, pas si loin du temple. Hein. Voilà, et donc la circoncision s'est faite. Et il ne faut pas oublier que c'est une chose très importante. Ça a été une fête toujours très importante, le 1er janvier. Aujourd'hui, depuis très peu de temps, depuis très peu de temps, depuis. Moi, j'ai vécu jusqu'à ma jeunesse, on fêtait la circoncision. Et la fête de la Mère de Dieu, c'est seulement quand. Voilà, j'atteins ma majorité, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est récent que le 1er janvier, c'est la fête, la solennité de la Mère de Dieu. Mais la circoncision est liée, c'est en même temps, le même jour, que dans le rite extraordinaire institué par le pape Benoît XVI, on fête la circoncision aussi. On fête dans le rite ordinaire, donc la maternité divine de Marie, et l'huile que la Vierge a gardée, j'allais dire, que la Vierge Immaculée a gardée dans son lit esponsal avec Joseph, pour la nativité du Messie. C'est conservé, c'est conservé, c'est conservé, c'est conservé, jusqu'au Noël glorieux qui est devant nous. C'est une très belle fête, ça. Cette maternité divine de Marie, elle commence parce que, dans le principe de la nativité, la fécondité de l'union hypostatique du Verbe devenu chair, tombe, si je puis dire, sur le sol de la terre, elle s'enfonce dans la terre. La première fois qu'une goutte de sang du mouvement éternel de Dieu inscrit dans la petite goutte de sang et qui fait précisément le mystère de la nativité rédemptrice s'enfonce dans la terre, première goutte de sang dans le temple de Dieu, dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints. C'est extraordinaire comme fait ça. Le Saint des Saints, le temple, tout ça représente l'absolution du monde aussi, hein, cette première goutte de sang. L'absolution qui s'inscrit dans la création de l'homme, dans le sein d'une mère, dans la bénédiction de toute femme. Cette bénédiction est désormais accompagnée par cette circoncision de Jésus, qui ouvre dans le corps originel de chaque être humain 9 mois avant la naissance les portes d'un calice extraordinaire qu'il va pouvoir recevoir. Le mouvement éternel d'amour de Dieu. Dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, mais un sang qui glorifie le Père. Voilà la circoncision, la première fois. Tout ça pour dire que quand on célèbre la messe, on dit, comme on le sait très bien, avant, qui prêtiez comme patérateur avant. Qui ne rentre dans un corps capable de souffrir. Jésus prend le pain et il prend le calice entre ses mains. Et de là, il dit, ceci est mon corps. Avant de pénétrer à l'intérieur de Marie dans une chair capable de souffrir, et avant de naître, il prend d'abord le mystère eucharistique de son don. Et il donne son mouvement éternel d'amour inscrit dans une petite goutte de sang à partir de la fin de la Jérusalem glorieuse du monde, d'où naît le Noël glorieux pour les hommes. Le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel jusqu'à nous, dans l'Eucharistie, et on va vers lui, dans le Noël spirituel, dans le Noël surnaturel de Dieu. Et la rencontre des deux fait la circoncision, parce que nous, on est circoncis dans ce rideau du temple qui s'ouvre en deux. C'est la fécondité de la personne qui s'inscrit dans l'incarnation. C'est cette fécondité-là qui est marquée dans le sang. La mort du Christ sur la croix se marque déjà et se rend présente réellement, d'une manière eucharistique, il faut bien le dire, à la circoncision de Jésus. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de circoncision. Parce qu'il y a la présence réelle en Israël, dans le monde et dans l'univers entier. Il n'y a plus besoin parce qu'il y a la marque, la présence réelle dans notre humanité de ce que la circoncision représentait et ce qu'elle était. C'est cette marque dans la fécondité du Verbe incarné. Et temple s'est ouvert, le rideau du temple s'est ouvert, qu'il y a eu cette déchirure. Pour voir le rituel de la circoncision, ça parle de Jésus, mais complètement, quoi. Il faudrait écrire un bouquin justement sur l'explication de la messe à partir de la circoncision en Israël. C'est magnifique. Mais... peu importe, l'Église en tout cas a toujours considéré que le 1er janvier c'était la circoncision. Mais en même temps, aujourd'hui, elle dit mais la maternité divine de Marie, c'est une solennité. Elle a donné précisément en Mande, elle a donné la fécondité originel du Christ au ciel et à la terre. C'est elle qui engendre l'ouverture de tous les temps. Elle engendre dans l'ouverture de tous les temps cette circoncision quasi incréée dans le Verbe de Dieu qui permet au mouvement éternel d'amour, d'aspiration incréée, du Verbe de Dieu, de sa responsabilité incréée dans l'éternité, de pénétrer dans le temps et de pénétrer et de s'inscrire dans le fond du calice. Du calice de chacune de nos aspirations incarnées de Dieu. Et nous sommes donc circoncis. Cette marque qui déchire en nous toutes nos fécondités terrestres ouvre toutes nos fécondités à une fécondité qui sera éternelle en nous. Et ça, c'est la maternité divine de Marie qui engendre, elle est mère de Dieu, elle est mère de l'Église et elle est mère du fruit de cette circoncision, d'une union hypostatique déchirée de Jésus. Voilà, c'est pour ça que c'est une fête qui n'a pas du tout. Alors, du coup, le Saint-Père, le pape Benoît XVI, a conservé, vous voyez, cette fête dans le mode extraordinaire, pour le 1er janvier. Alors, pour nous, c'est pas une difficulté, on a célébré la solennité de la Mère de Dieu, ce matin, ben, cet après-midi, de manière ordinaire, et donc on peut s'en bien célébrer. De manière extraordinaire, la circoncision de Jésus, après tout. Pardon. Alors, je ne vais pas dire célébrer la messe en latin, parce que sinon vous ne comprendrez pas, mais c'est pas ça, on va la dire en français. Mais je vais quand même célébrer la messe, ça ne vous arrive pas souvent. Moi, ça m'arrive très rarement aussi, mais quand même, deux, trois fois par an, je célèbre la messe de mode extra... De Benoît XVI, la messe de Benoît XVI dans le mode extraordinaire. Mais je le célèbre en français. C'est pareil, c'est toujours la messe de mode extraordinaire. Hein ? Vous pouvez communier puisque c'est pas la même messe.
Ah oui.
Communier une deuxième fois puisque c'est pas la même messe. Ceci étant, je tiens à vous dire quand même que depuis 2004, il y a eu des changements dans les dispositions disciplinaires de la communion dans une journée. Des changements. C'est pas Jean-Paul II qui a voulu que. Avant, c'est vrai, il fallait demander la permission au prêtre pour communier une deuxième fois. Et depuis 2004, on n'a plus besoin de le faire. Vous devez demander au prêtre si c'est pour communier une troisième fois. Mais de toute façon, même avant ces dispositions-là, même avant quand il fallait demander au prêtre la permission de communier une deuxième fois dans la journée, si vous assistiez à une messe différente, vous pouviez communier sans demander au prêtre. Par exemple, vous aviez la messe de la féerie, et puis voilà, du jour, et puis après vous avez une messe de funérailles, une messe de mariage, une messe de je sais pas quoi. Bon. Il n'y a pas besoin de demander au prêtre, c'était pas la même messe. Hein, vous allez à une messe uniate, une messe maronite, puis une messe catholique, là, vous pouvez communier trois fois si vous voulez. Sans rien demander. Oui, c'est pour éviter que des mémés complètement là. Ah, je vais à la messe à 6h du matin, puis après je vais à la messe à 8h du matin, puis après je vais à la messe. Et je communise. Mais c'est pas une sucette. Non, mais parce que... C'est formidable, la première communion j'ai reçu une hostie ronde, la deuxième communion j'ai reçu une hostie marron, la troisième communion j'ai reçu une hostie qui appartenait à Christian Bourg, de l'hostie principale, la quatrième communion j'ai dit, et puis ta 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 ta, la cinquième messe ça m'a brûlé mon cœur, la sixième messe ça m'a rendu dingue, je comprends. C'est notre pain de chaque jour, hein. C'est un pas transsubstantiel. Hein. Voilà. Donc, je vous demande pardon à l'avance parce que je vais célébrer la messe, c'est pas l'habitude de célébrer la messe de Saint Pie V. Mais les prêtres ont le droit, nous avons le droit. Hein. Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont ce souci, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ne vous inquiétez pas. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai le droit de le faire. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien qu'il y a des prêtres qui font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Je vous affirme que ce n'est pas mon cas. Le moindre détail, la moindre chose, j'y fais extrêmement attention. Et depuis toujours. Alors je vous mets en paix là-dessus. Soyez en sécurité là-dessus. Vous ne me surprendrez pas faire quelque chose de contraire à la rubrique. Jamais. Je trouve ça trop important. C'est très grave, je trouve. Celui qui enlèvera le plus petit, hein, le plus petit sera considéré comme le plus minable dans le royaume des cieux. C'est pas mon intention. Je n'ai pas l'intention d'être grand dans le royaume des cieux. J'ai l'impression d'être une petite souris, quoi. Mais enfin, quand même, le plus petit, non. Pas le plus minable. Voilà, il faut l'enseigner aussi, de respecter la discipline. C'est pas une discipline, vous voyez, c'est pas une loi. Parce qu'on remarque, vous voyez, quand Jésus a multiplié les pains, je vous donne un petit principe, j'espère que vous en rappellerez toujours. Quand Jésus multiplie les pains et les poissons, alors il donne aux fils d'Israël, il donne des pains multipliés, donc un pain entier, un poisson entier, et jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. À la fin, on ramasse les miettes, des trucs tombés par terre, les miettes. Mais rien du tout, quoi. Rien du tout. À la fin de la messe, rien. Un petit bout de farine. On a l'impression que c'est même un point de farine. C'est un petit bout de pain, mais c'est tellement minuscule, c'est plus petit qu'une pointe, une pointe d'épingle. Ah, on ramasse les miettes. Et on en fait 12 corbeilles pleines. Eh bien, c'est ce pain que Jésus prend pour célébrer la messe. Pour donner la communion aux nations, aux multitudes et à l'Église de la fin. Et de l'Église jusqu'à la fin. On prend les restes. C'est pour ça que chez les catholiques, vous voyez, on ne laisse jamais une miette dans son assiette. Jamais un chrétien laisse un reste comme ça. Ça va à la poubelle. Ça, c'est l'horreur. C'est l'effroi. Scandale pour les anges, pour les saints, tout tremble dans les tombeaux de nos ancêtres qui sont baptisés catholiques. On ne fait pas ça. Enfin. Pourquoi? Parce que c'est sans ces restes qui servent. Jésus a choisi ces restes dans les 12 corbeilles et tout ça pour célébrer la messe. C'est ça qu'il prend. Au fils d'Israël, il a donné le pain multiplié, descendu du ciel, miraculeux. Le pain de l'offrande, hein, c'est vrai, le mémorial, le tzikaron, de l'Ehem, du Meshiach, c'est vrai. Mais à nous, il prend ce qu'il y a de plus petit dans nos miettes, voyez. On veut dire par là, la moindre chose, plus c'est petit, plus l'œuvre de Dieu sera grande. Donc les moindres détails de la discipline de l'Église, il faut les respecter, sinon tout ce que tu feras comme prêtre, comme fidèle, dans la vie sur la terre, comme catholique, sera minable. Soit le moindre dans le royaume de Dieu. Tandis que quand tu vas se mettre ce qu'il y a de plus petit que tu l'enseigneras à faire aux autres, tu verras. Si C'était un petit fil à la patte, de rien du tout, de rien du tout, de minuscule, de minuscule, de minuscule, de rien, froid, rien du tout. Et l'envol de la colombe, paf! C'est terrible ça. C'est vrai. Et pareil, pour la colombe, c'est très beau, la pupille, le Saint-Esprit. La grâce, le vol libre de l'Esprit Saint. Hein? Un peu d'oraison. Hein? Puis. Minuscule même. Minuscule. Hein? Ouvre bien les yeux. Ouvre bien les yeux. Attention, je vais toucher ton œil. Et tu es une colombe. Hein? Les colombes, elles nous aiment bien. Mais tu mets une petite pistolette dans l'œil de la colombe. Puis elle s'en va. Hein? Elle s'en va. C'est évident. C'est dans les petites choses. On devient grand, vous voyez. C'est un cheveu, ça suffit. Pour empêcher l'entrée dans le mariage spirituel de la septième demeure. Un seul cheveu, un bout de cheveu de rien du tout. De rien, 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 rien. N'oubliez jamais que l'Antichrist ne pourra pas atteindre la septième demeure. Il atteindra, il vient de chez nous, il aura atteint les demeures précédentes. Mais il n'aura jamais touché à la septième demeure du mariage spirituel. Et pour cause. Parce qu'il y a une toute petite chose qu'il a oubliée. Quelque chose qui l'arrête, un fil. Quelque chose de rien du tout. Microscopement invisible aux yeux des hommes. Qui fait que la colombe s'en va. Le vol de la corde ne va pas jusqu'au bout. Nous sommes appelés à la perfection. Et c'est pas une exagération de dire ça. Nous sommes appelés à la perfection. C'est pas un truc. Non, c'est pas. On est appelé à la sainteté, on est appelé à. Et pour ça. Il faut qu'on puisse être transformé. Cette union transformante est pour nous tellement agréable. Être les sources de la pacification universelle de l'univers, c'est quand même agréable. Constater que tu es une source de pacification universelle dans l'univers, c'est pas mal. Le Saint-Esprit témoigne, effectivement, c'est ce qui s'opère à travers ton corps spirituel venu d'en haut en toi, dans la transaction sur notre responsable de ton sacrement. Ah, agréable. Alors, je veux dire par là, si je vous dis que on peut célébrer la messe de Saint-Pie V en français, c'est que je vous dis que c'est vrai, on peut. Et que tous les prêtres peuvent très bien célébrer la messe de Saint-Pie V en latin aussi. Ils n'ont pas besoin de demander la permission. C'est le pape Benoît XVI qui a décidé ça. Bon, ça m'arrive rarement de le faire, mais je le fais volontiers. Mais du coup, c'est pas que je respecte pas, mais du coup, je suis pas habitué, alors. T'entends, je fais des maladresses. Mais sachez bien que je fais pas exprès. Donc, les traditionnalistes parmi vous, les intégristes, Saint-Pie V, je m'en pardonne à l'avance, n'est-ce pas? Si je vous scandalise. Célébrer dans la maternité divine de Marie, quoi. Aujourd'hui, tu vois, 99e année, il reste quelques mois seulement devant nous. Ah, je rêve. La circoncision du Seigneur dans le mode extraordinaire. Oh Seigneur, mon Dieu. Ah, c'est cette goutte de sang qui tombe dans le temple de Jérusalem, à partir de Bethléem, à partir de l'Eucharistie. Marie a engendré la présence eucharistique, cette goutte de sang qui vient de la Jérusalem glorieuse, à travers l'Eucharistie, là. Et la fécondité, donc, vient marquer, déchirer notre corps de chair, recueillant le pain eucharistique et laissant émaner cette goutte de sang. Cette goutte de sang qui est l'amour éternellement brûlant, vivant et incréé de le Verbe de Dieu, dans l'ouverture de son union hypostatique déchirée à l'intérieur du corps et du Saint des Saints, de la paternité incréée de Dieu, qui fait naître toute personne à l'existence. C'est ça qu'on célèbre le 1er janvier, dans la fête de la circoncision, frères et sœurs. C'est pas rien. En présence réelle et extraordinaire. Bon. J'en ai assez dit, je pense, pour l'instant.